Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture, une émission préparée ce matin par Antoine Duster et Bertie Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Leridon et Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Clément Daté. Table ronde d'actualité internationale ce vendredi. Après la victoire officielle de Joe Biden, les responsables européens ont salué d'une même voix le couronnement du démocrate, soulagé du départ d'un Trump qui, depuis 4 ans, n'a eu de cesse de mettre à mal les relations transatlantiques. Mais après le soulagement, viennent les divisions et les interrogations quant à ce qu'il convient de faire désormais. Entre ceux qui voudraient revenir au temps d'avant, celui de l'entente stratégique avec Washington, et ceux qui, au contraire, considèrent que l'élection de Trump n'était pas un accident de l'histoire et qu'il faut impérativement que l'Europe prenne le chemin de l'autonomie stratégique. Alors quel est l'état de ces divisions à l'intérieur de l'Union européenne? Quel est le rapport de force entre les différents camps? Jusqu'où l'Union européenne doit-elle s'émanciper de sa dépendance sécuritaire aux États-Unis? En a-t-elle seulement les moyens? Et puis comment on conçoit aussi du côté de Washington, enfin le Washington version Biden, les relations avec l'Europe? On posera toutes ces questions tout à l'heure à Annick Cizel et à Nicole Niesoto. Mais avant de nous intéresser à ce départ de Trump et à cette Europe, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Guinée. Bonjour Agnès Fèvre.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste indépendante, mais vous travaillez notamment pour Libération, pour lequel vous avez écrit un certain nombre d'articles à propos donc de la Guinée dont on va parler cette semaine. Vous venez tout juste de rentrer de Guinée, où vous allez très régulièrement. Alors, je rappelle pour les auditeurs, samedi dernier, la Cour constitutionnelle de Guinée a confirmé les résultats du scrutin du 18 octobre dernier, et donc a entériné la victoire du président Alpha Condé à un troisième mandat, alors que, je le rappelle, la Constitution l'est limitée à deux, avant une modification du texte en mars dernier. Et puis, depuis des semaines, donc, on a des violences qui agitent le pays, des dizaines de morts dans les rangs notamment du Front National de Défense de la Constitution, qui est une grande plateforme qui réunit à la fois la société civile, mais aussi des syndicats, des partis politiques d'opposition. Mercredi, Agnès Fèvre, le pouvoir a lancé une grande vague d'arrestations d'opposants. Oui. Notamment dans le cadre de, notamment des cadres de l'Union des Forces Démocratiques et le parti de l'opposant Sélou Dalène Diallo, dont on va parler, qui conteste aujourd'hui le résultat du scrutin. Oui. Il y a une centaine d'arrestations. Très clairement, non seulement la pression se poursuit, mais elle s'intensifie en réalité.
C'est ça, c'est-à-dire que depuis le scrutin, il y a une répression qui va crescendo, qui a commencé au lendemain du scrutin, quand justement Sélou Dalène Diallo a revendiqué sa victoire, que ses militants sont sortis dans la rue pour célébrer sa victoire, et que quelques heures plus tard, ça a dégénéré et les premiers coups de feu ont éclaté. Et voilà, et là, il y a eu des dizaines de morts, il y a eu plus de 350 arrestations, il y a eu le réseau Internet coupé, donc il y a eu une espèce de mouvement crescendo, qui s'est un petit peu calmé depuis à peu près une semaine, depuis la proclamation des résultats, parce que beaucoup de violence, beaucoup de sang versé, mais qui là se poursuit effectivement, comme vous l'avez annoncé, par d'une façon un peu plus sournoise, par des vagues d'arrestations qui se poursuivent de façon toujours très très musclée, avec pour un seul homme. Alors c'est vrai que c'est surtout des membres de l'opposition, donc de l'UFDG, qui sont visés. Mais les modes opératoires sont très musclés, quoi. C'est la BAC, la BRI, qui est la chose que l'anti-gang français, des unités anti-émeutes qui vont chez un seul homme non armé comme ça pour procéder à une arrestation. Donc c'est assez inquiétant, effectivement.
Ouais. Oui, on a même mis en place une nouvelle unité qui est chargée précisément de s'en prendre aux opposants, l'unité mixte. On a, d'une certaine manière, institutionnaliser cette violence à l'égard de l'opposition. Vous nous décrivez les modes d'action de ces services-là de sécurité ?
Ouais, alors ces modes d'action sont très très bien documentés depuis des années par de nombreuses organisations, par Human Rights Watch, par Amnesty International, récemment par Tournons la Page, cette organisation de mouvement de la société civile qui milite pour l'alternance démocratique et qui a déposé plainte qui a fait un signalement devant la Cour pénale internationale. Et donc tout ça est très bien documenté, on le sait depuis des années, mais il n'y a malheureusement pas d'impunité. Donc c'est les modes opératoires, effectivement, donc c'est des interpellations. Alors il peut y avoir au niveau des arrestations, c'est des interpellations qui ressemblent parfois à des kidnappings avec des agents qui interviennent cagoulés, sans mandat. Il y a rarement des mandats. Il peut y avoir des rafles. Par exemple, juste avant le double scrutin référendaire et législatif du 22 mars, il y a eu des rafles de jeunes. Il y a 36 jeunes qui ont été raflés le long de la route. Alors ça se produit souvent dans les banlieues nord de Conakry, qui sont réputées proches de l'opposition. C'est une enfilade de quartiers majoritairement peuplés de Peuls, qui est donc la communauté d'appartenance de l'opposant principal, c'est Loud Alain Diallo.
Qui est minoritaire en Guinée, en réalité. Assez minoritaire.
Vous voulez dire les Peuls. Il n'y a pas de statistiques ethniques.
D'accord.
C'est une des langues les plus parlées, par exemple.
D'accord.
C'est une langue que pas mal de gens comprennent, parce qu'il y a trois langues qui sont couramment parlées, mais il n'y a pas de langue nationale. Mmh. C'est difficile de savoir, réellement.
Et justement, est-ce que ces enjeux ethniques sont mobilisés aujourd'hui dans ce différent politique? C'est souvent un peu ce qu'on craint dans ce genre de conflit post-électoral. Il y a plusieurs groupes ethniques. Alors, vous dites il n'y a pas de chiffres, mais
statistiques.
Mais on sait qu'il y a beaucoup de malinqués, de peuls, de sousous.
Tout à fait.
C'est un enjeu, l'enjeu ethnique, dans ce différent politique?
En période électorale, oui. Il y a un vote ethnique, oui, c'est vrai. Il y a une majorité de malinqués derrière le RPG, le parti au pouvoir, donc le Rassemblement du Peuple de Guinée, d'Alpha Condé. Il y a une majorité de Peuls derrière l'UFDG. Ensuite, les Soussous et les Guerzés, et d'autres populations de la forêt, qui est la quatrième grande région de Guinée, sont un peu plus faiseurs de roi, on va dire. Mais c'est ça qui était intéressant, justement, avec le Front National de Défense de la Constitution, ce mouvement qui s'oppose depuis un an et demi à un troisième mandat d'Alpha Condé, c'est que justement il voulait transcender tous ces clivages ethniques. Et là on voyait un peu toutes les communautés qui étaient représentées. Mais là où on voit que quand même il y a des tensions ethniques, c'est dans la répression. C'est-à-dire que si on regarde, là par exemple, selon l'opposition, il y a eu 48 morts tués par les forces de défense et de sécurité, donc essentiellement tués par balles, depuis le 19 octobre. Et si vous regardez le tableau qu'ils ont fait avec une photo, et à chaque fois ils corroborent avec le témoignage des familles. Moi, j'en ai vérifié à peu près la moitié, donc j'ai pu recouper ce qu'ils disaient. Et c'est que des non-peuls. Effectivement, et cette répression se produit dans les quartiers peuls. Et là où il y a eu beaucoup de morts aussi en Guinée, c'est en moyenne Guinée. Donc c'est aussi la région du Fouta-Djallon qui est majoritairement peuplée de peuls. Donc oui, l'enjeu ethnique en période électorale, effectivement, on peut pas l'écarter.
Agnès Fèvre, la situation aujourd'hui, très concrètement, laquelle est-elle? Vous nous avez dit que c'est les zones les plus touchées, la zone la plus touchée dans ces violences post-électorales, c'est ces quartiers, la banlieue nord de Conakry. Et c'est vrai que pendant plusieurs jours, on a un quartier qui a été totalement pris d'assaut, avec un marché qui a dû fermer, sachant que, là aussi, c'est peut-être important de le rappeler, c'est vraiment le poumon économique de la ville. Et donc, il y a des conséquences économiques et sociales terribles. On a déjà des prix qui explosent, certaines denrées qui viennent à manquer. Aujourd'hui, la situation sur place, est-ce que le quotidien reprend un peu son cours normal? Le marché a rouvert, on peut à nouveau acheter de quoi se nourrir?
Oui, le quotidien reprend parce que ça commence à devenir compliqué. Il n'y avait quasiment plus même de déplacements à l'intérieur du pays. Il n'y avait plus d'échanges économiques. Donc les gens retournent bosser, ils n'ont plus tellement le choix. Il y a toujours quand même un vent de colère qui est là. Mais la colère, c'est très intériorisé en Guinée, puisque l'histoire de ce pays depuis l'indépendance en 1958, c'est un peu l'histoire de la violence politique. Et la colère, on sait qu'elle coûte très cher en vie humaine. Donc il y a toujours quand même cette volonté d'alternance. On voit souvent des messages, même sur les réseaux sociaux, de gens qui disent « C'est Lou, vous avez qu'à dire un mot et on ressort dans la rue », puisqu'il a finalement aujourd'hui plus que cette issue, la rue, puisque tous les recours légaux ont été épuisés. Mais les gens, effectivement, ont besoin de bosser, ont besoin de vivre. Donc même la position de l'UFDG, c'est de dire « Bon, pour l'instant, on laisse les gens souffler un peu et on essaye de les laisser reprendre un peu le cours normal de leur vie ». On essaie de laisser l'économie reprendre parce que c'est très difficile, dans un pays déjà très pauvre.
L'UFDG, je rappelle, donc c'est le parti de ce principal opposant, c'est Loud Alain Diallo, qui non seulement dit que le scrutin a été truqué, mais qui en plus affirme l'avoir emporté et qui en plus a même un chiffre. Il dit 53% des suffrages m'ont été accordés.
Oui.
Comment est-ce qu'il fait ce comptage? Quel crédit apporter à ce chiffre qu'il avance?
Alors, il s'était pas mal organisé cette fois, puisque il dit que ça fait trois fois, selon lui, qu'il se fait voler l'élection. Il est convaincu de l'avoir emporté en 2010 face à Alpha Condé. Il est convaincu de l'avoir emporté de la même façon en 2015 et qu'à chaque fois, il y a eu des fraudes électorales. Donc cette fois, il s'est organisé, il a recruté Il a énormément, alors il le dit souvent, j'ai énormément investi, puisque depuis les législatives de fin mars, l'UFDG n'est plus présente à l'Assemblée, elle ne touche plus non plus d'argent de l'État, etc. Bon, bref. Et donc il a énormément investi pour pouvoir avoir des agents dans les bureaux de vote, des délégués, comme d'ailleurs l'exige le code électoral. Hein. Chacun des 12 candidats est supposé avoir un délégué dans chacun des 14 000 bureaux de vote du pays.
Allez, juste une chose, quand vous dites qu'il a investi de son argent personnel, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit beaucoup. Ouais. C'est un argument. C'est quelque chose qu'on l'entend se ruiner à longueur d'interview. Donc pour former ces milliers de jeunes et pour pouvoir à l'issue des dépouillements dans chaque bureau de vote récupérer une copie du bureau de vote, parce que en principe le code électoral exige que chaque délégué des 12 partis, enfin des partis candidats à la présidentielle, reçoivent une copie des bulletins, sauf que là, juste avant le scrutin présidentiel, la CENI, qui est la Commission électorale nationale indépendante, a annoncé que finalement, l'État ne pouvait mettre à disposition des bureaux de vote que des copies polycarbonées avec 5 exemplaires. Donc seul le vainqueur pouvait avoir un exemplaire. Donc il s'est organisé, donc les délégués ont réussi à prendre des photos, ce qui était interdit initialement, ont réussi à noter les chiffres, ça c'est ce que dit l'opposition, hein, noter les chiffres et à leur transmettre. Et donc, il dit avoir récupéré 80%, environ 80% des procès-verbaux des bureaux de vote. Et c'est sur cette base des 80% qu'il a fait son propre comptage.
D'accord. Et quel crédit lui a apporté ?
Ouais. Voilà, quel crédit bon, ils ont quand même pas mal bossé là-dessus. Moi, j'ai quand même suivi toute la période de la campagne. On a vraiment senti un engouement pour ces goûts d'Alain Diallo. C'était indéniable. Et même quand c'était pas un engouement franc pour lui, c'était un refus, enfin un fort désir d'alternance politique, un refus de voir même des gens qui ont voté deux fois pour Alpha Condé, qui disaient non, cette fois on a envie que ça change. Donc c'est quelqu'un qui appartient un peu à l'establishment, enfin à l'ancienne administration, mais bon, tant pis, au moins on change, on essaye autre chose.
Oui, parce qu'il a été ministre, cet homme-là. Hein. Aujourd'hui, il se dit anti-système. Ouais. Il a été ministre des Transports, des Télécommunications, des Travaux Publics. Il est même devenu Premier ministre en 2004.
Tout à fait. Il se targue d'avoir été le ministre qui a eu la plus grande longévité sous l'administration de l'Ansana Conté, entre 84 et 2008. Mais quel crédit apporter ? Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de voir à la fois le rapport de la CENI, le rapport officiel sur la tenue du scrutin, la totalisation des votes, et le rapport aussi qui a été effectué par quatre, parce que la CENI, donc la Commission électorale nationale indépendante, comporte 17 commissaires. Quatre commissaires qui étaient en désaccord avec les procédures ont publié un rapport au lendemain de la publication des résultats, dans lequel on voit qu'il y a eu quand même de nombreuses irrégularités. Et on voit qu'effectivement, dans toutes les zones où on sait que l'UFDG est plutôt favorable, il y a plein de procès-verbaux qui ont été annulés. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu se produire en 2015. Et en l'occurrence, dans les fiefs du pouvoir, il y a des taux de participation qui sont absolument pas crédibles, quoi, de 100,14%, de 98%, alors qu'on est dans des zones complètement isolées. Des zones rurales où les gens, on le sait, quoi, se déplacent pas forcément pour aller voter, sont pas tellement sensibilisés au vote.
Oui. C'est sûr que quand on dépasse 100%, il y a de quoi s'interroger, effectivement, Agnès Fèvre. Il y a aujourd'hui des émissaires qui sont sur place pour essayer de trouver une solution. Il y a des représentants de l'Union africaine, des représentants de l'ONU, des représentants de la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pensez qu'on peut attendre une médiation, on peut toujours attendre, mais en tout cas une issue politique?
Alors les émissaires se sont déplacés deux jours, il y a une dizaine de jours, ils ont fait ce qu'ils ont appelé une mission préventive. Ils n'ont pas bonne presse en Guinée, parce que les Guinéens n'ont pas tellement apprécié qu'ils qu'ils disent que les élections s'étaient très bien déroulées, puisque finalement ils ont été les seuls observateurs de ce scrutin. Les États-Unis, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie, qui avait déjà refusé de surveiller le double scrutin référendaire du 22 mars, n'étaient pas présents. Donc c'était les seuls à être là. Et les conclusions déjà qu'ils avaient rendues le jour du scrutin n'avaient pas tellement plu aux Guinéens. Donc ils sont assez décrédibilisés en Guinée. Il n'empêche que lors de la mission préventive qu'ils ont effectuée, ils ont quand même adressé un message incitant les autorités guinéennes à mener des enquêtes sur la répression. Ils ne se sont pas tellement prononcés sur la crédibilité du scrutin, parce que là, ils ont dit que c'était vraiment aux institutions guinéennes de se prononcer sur ce point. Mais ils sont un petit peu sortis de leurs réserves. Mais qu'en attendre, On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Et ce qui est problématique, c'est que la France, l'Union européenne, les États-Unis, les États-Unis un petit peu moins, mais en tout cas la France et l'Union européenne ont tendance à s'abriter derrière eux. Et aujourd'hui, bon, ils ont reconnu la victoire d'Alpha Condé. Vous allez me dire, ouais, est-ce qu'ils avaient le choix ? Enfin, comment faire autrement ? Mais aujourd'hui, on ne voit pas trop quel est leur... ils appellent au dialogue. Ils appellent à un dialogue, à un gouvernement inclusif. Mais on sait très bien que le dialogue est rompu entre l'opposition et le pouvoir depuis plus d'un an et demi, depuis ce projet de nouvelle constitution, pardon. Et le dialogue Bédié-Ouattara qui vient de se dérouler en Côte d'Ivoire, pour l'instant, il a peu de chances d'essaimer en Guinée quand même, où chacun se regarde en chien de faïence et reste sur sa position. Ouais. C'est Lou Dalain Diallo continue de dire qu'il a gagné cette élection. Il n'en démord pas.
Peut-être un tout dernier point, Agnès Fèvre, mais qui est un point important, oui. Parce que à la veille des élections, vous aviez tenté de dresser un bilan de l'action d'Alpha Condé en matière de développement. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2010, Condé a notamment promis d'électrifier l'ensemble du territoire. En 3 mois, avait-il dit. C'était extrêmement ambitieux. Vous avez fait justement un long papier très intéressant sur la construction d'un immense barrage hydroélectrique, le barrage de Kaleta. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'il est en marche ? Et est-ce que tous les Guinéens ont désormais accès à l'électricité comme ils l'avaient promis ?
Oh là là, non. Kaleta, il a été... en fait, c'est un petit peu à chaque mandat, à chaque élection présidentielle, un barrage. Kaleta a été inauguré en 2015. Et là, normalement, pour l'élection présidentielle de 2020, il devait inaugurer Swapiti, qui était 2 fois plus gros, construit par les Chinois. Et Kaleta a permis, effectivement, d'apporter un peu plus de courant dans la capitale, à Conakry. Et Swapiti, non, ça a été retardé. Donc là, on parle de février 2021. Mais il se peut que les Guinéens n'en profitent pas tellement et que ce soit plutôt orienté vers l'exploitation minière, vers les zones d'extraction de la bauxite pour motiver en fait les sociétés minières à venir travailler en Guinée, notamment à construire des raffineries d'alumine, c'est-à-dire à transformer un peu ce minerai qui est exporté brut pour l'instant. C'est très difficile, l'électricité. Dans la plupart des villes en Guinée, le courant est disponible de 18h à minuit quand tout va bien. Et même à Conakry, on peut avoir des coupures de 24 heures, 48 heures. Non, c'est un problème.
Et puis peut-être que ce qu'on peut mentionner, c'est que le financement de ce barrage, il a été assuré par des fonds chinois, avec des prêts proposés par des banques chinoises, sauf qu'en réalité, comme le pays n'a pas vraiment les moyens de payer, il y a une contrepartie. En fait, les prêts sont gagés sur les ressources naturelles, ce qui permet à Pékin de faire main basse sur ces ressources. J'ajoute sur la question minière, dont vous êtes une spécialiste, vous avez réalisé aussi une enquête très intéressante sur une jeune start-up française qui a été publiée dans Libération. Cette start-up, c'est AMR, qui a été montée au début des années 2010, qui ambitionnait de faire de la mine autrement, pour reprendre votre formule, de façon, disons, plus éthique, plus vertueuse. Et c'est une aventure entrepreneuriale, vous le racontez, qui a bénéficié d'un certain nombre de soutien, de personnalités connues. Je pense au patron de Free, Xavier Niel, à l'ancien ministre Arnaud Montebourg, qui a généreusement ouvert son carnet d'adresses avant de prendre ses distances, ou encore à l'ex-patronne d'Areva, Anne Vergeon. Sauf que, en vous penchant sur son fonctionnement, vous êtes rendu compte que, pendant que l'entreprise exploitait les verts plateaux bauxitiques de la région de Bokeh, on avait aussi monté un partenariat avec une entreprise basée à Hong Kong, qui, elle, se trouve au cœur d'un montage financier qui est destiné à faire de l'optimisation fiscale. Vous nous racontez en quelques mots?
Oui, tout à fait. On s'est rendu compte, en effet, de la création de cette société peu après que les deux dirigeants de cette start-up avaient obtenu un permis d'exploitation dans des délais assez courts, et ce qui est assez surprenant pour des personnes qui ne sont pas spécialistes du secteur minier à la base. Donc, peu après l'obtention d'un permis minier dans la bauxite, ils ont créé cette société à Hong Kong, qui est une société de prestation de services et qui pratiquait des coûts exorbitants. Donc, on a pu consulter le contrat et ça nous a plutôt interrogé sur plusieurs points, à savoir des services pour 4,5 millions par an dans l'environnement, alors que concrètement, en vérifiant sur le terrain, tout ce qui était fait dans l'environnement, déjà, il n'y avait pas tant de choses que ça, mais tout ce qui était fait, c'était des petites dépenses, et en plus, elles étaient prises en charge par un gros consortium, ou bien par des partenariats avec l'ONU ou avec d'autres formes de coopération. Donc AMR ne déboursait pas un franc. Enfin, pas un franc guinéen dans l'environnement. Il y avait des prestations de services aussi pour des conseils de courtage et de commercialisation, alors que peu après sa création, elle a signé un accord qu'on appelle un accord d'amodiation, selon lequel...
Auquel vous avez eu accès, donc c'est une information directe.
Pas l'accord d'amodiation. En revanche, l'accord, effectivement, avec cette société hongkongaise, ça, on a pu le consulter. L'accord d'amodiation, c'est avec le numéro 1 de la bauxite en Guinée, qui a un gros consortium sino-singaporo-guinéen, et selon lequel AMR n'exploite pas, ne fait rien, elle ne fait que recevoir des royalties, et elle confie son permis d'exploitation, enfin, elle confie les droits d'exploiter à ce gros consortium. Donc, du coup, on ne comprenait pas pourquoi il y avait un euro par tonne qui était payé à cette société pour donner des conseils de commercialisation. Ouais. Il n'y avait aucune raison. Voilà, donc tout ça permettait finalement de faire transiter une grande partie du chiffre d'affaires dans des cieux assez cléments, fiscalement plus cléments, et de payer beaucoup moins d'impôts en Guinée.
Voilà, et donc il n'y a pas seulement les Chinois qui ont fait main basse sur les ressources, en tout cas qui en profitent. Et évidemment, à la fin, c'est toujours les mêmes qui payent, c'est-à-dire c'est les Guinéens. Le manque à gagner est colossal. On parle d'environ 8 millions d'impôts qui s'envolent chaque année, ce qui est très important pour un pays qui a un budget qui est quand même relativement limité. Merci infiniment.
Tout à fait.
On peut retrouver les détails justement de cette enquête d'Agnès Fèvre sur le site de Libération. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous, Florian Delorme. Tanda musikile ya toni watu ama beguru sitima Aditama tanda musikile ya toni watu ama beguru sitima Mwabite siri uya vola isi ni malo ya lele matonana Ala tarabali kute alimaye juni kufe
C'est avec cette chanson guinéenne, évidemment, dont on peut retrouver la référence sur le site de France Culture, qu'on tourne notre page, direction l'Europe, face au départ de Trump, l'Europe soulagée, mais l'Europe divisée.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisqu'on est désormais fixé sur les élections américaines et que Joe Biden doit donc succéder au président Trump, nous allons nous intéresser aux conséquences pour nous autres Européens. En début de semaine, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a plaidé pour un nouveau partenariat transatlantique.
L'Union européenne se tient prête à intensifier la coopération avec la nouvelle administration américaine et avec le nouveau Congrès. Ensemble, nous nous attaquerons aux défis globaux. La pandémie du coronavirus et ses conséquences économiques et sociales. La lutte globale contre le changement climatique et la perte de biodiversité. Les nouvelles règles du jeu pour l'économie et la société numérique, la sécurité globale et la réforme du système multilatéral basé sur les règles. Je me réjouis de promouvoir cet agenda global ensemble avec le prochain président des États-Unis, Joe Biden.
Voilà, une Ursula von der Leyen qui a hâte maintenant de travailler avec le nouveau président américain, une présidente de la Commission qui appelait à relancer le partenariat avec les États-Unis. Mais derrière tout cela, on a aussi des divisions qui se font jour à propos de ce que doit être le futur des relations transatlantiques entre ceux qui rêvent de revenir à ce qu'elle était avant Trump et ceux qui, au contraire, prônent l'autonomie stratégique de l'Europe. Pour évoquer toutes ces questions, ce sujet, nous avons invité ce matin Nicole Niesoto, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne, politiste, titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers. Avec nous également, j'allais dire côté américain, Annick Cizel. Bonjour Annick Cizel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également, maîtresse de conférence, spécialiste de la politique étrangère américaine à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Nicole Niesoto, derrière cette prise de parole de la présidente de la Commission se trouve en réalité un débat extrêmement vif qui va occuper l'Union européenne pendant des mois, peut-être même pendant des années, parce qu'il n'y a pas de consensus entre les 27 sur la manière dont il convient de repenser cette relation transatlantique après le départ de Trump. Nicole Niesoto.
Oui, c'est vrai, mais si je puis me permettre, ce n'est pas l'élection de Joe Biden qui crée ce débat. Ce débat, il est presque aussi vieux que l'Europe, c'est-à-dire il n'y a jamais eu d'accord entre les membres, qu'ils soient 12, 15 ou 27 aujourd'hui, sur les relations transatlantiques. Il y a une majorité de pays qui sont effectivement très contents de l'allégeance européenne à l'Alliance, parce que c'est un principe d'économie et c'est une assurance de sécurité. Mais il y a d'autres pays, tout en partageant cette confiance dans la défense des États-Unis d'Amérique, d'autres pays menés par la France, qui considèrent que aujourd'hui encore plus qu'hier, l'Union européenne ne peut pas se satisfaire de cette dépendance vis-à-vis des États-Unis et qu'elle doit construire les éléments de sa souveraineté stratégique. Mmh. Et ça, c'est un vieux débat. Alors, Joe Biden, l'élection de Joe Biden va peut-être le renforcer, mais en même temps, je n'en suis même pas sûre. Je trouve tout à fait normal que Madame Merkel et sa ministre de la Défense fassent des premières déclarations se félicitant d'un renouveau de l'Alliance Atlantique. Le contraire eût été très surprenant. Donc tout ça est tout à fait normal. La question, à mes yeux en tout cas, c'est pas tellement de savoir si les Européens vont se diviser sur leur participation à l'Alliance ou leur création d'une défense européenne. La question pour moi est de savoir s'ils vont rester passifs ou s'ils vont être proactifs. Ça, c'est le vrai dilemme. C'est non pas Europe européenne ou Europe atlantique, c'est Europe passive ou Europe inventive.
Ben, on va regarder ça justement. On va regarder ça, Nicole Niesoto, et on va s'intéresser en particulier à l'Allemagne, parce que vous avez raison, beaucoup de choses se passent en ce moment, parce que le débat est très très fort en Allemagne. Il y a effectivement la position d'Angela Merkel et de sa ministre de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, mais il y a aussi des voix qui ne pensent pas exactement comme elle, et il va falloir en parler. Annick Cizel, si on regarde du côté des États-Unis cette fois, Joseph Borrell, qui est le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, il a donné sa vision des États-Unis post-Trump dans plusieurs journaux. Et il a déclaré notamment, je le cite, « L'arrivée des démocrates et de Joe Biden à la Maison-Blanche ne permettra pas aux Européens de remonter le temps. » Il a raison, Annick Cizel, on ne reviendra pas à la situation pré-Trump.
Ah, c'est une évidence. C'est une évidence pour de multiples raisons. D'abord parce que le monde a terriblement changé ces quatre dernières années et que la compétition de plus en plus âpre avec la Chine a changé la donne, a rebattu les cartes et contraint aujourd'hui, alors participe aujourd'hui de ce rapprochement transatlantique qui est présenté par l'administration à venir de Joe Biden et de Kamala Harris comme une absolue priorité. Et je pense qu'il faut avoir la Chine à l'esprit. Ça n'est pas simplement renouer des relations historiques transatlantiques, donc nostalgiques d'un passé ami, allié, mais non aligné, comme aurait dit Hubert Védrine. C'est pas simplement ça. C'est que la donne a changé, que véritablement il y a une alliance stratégique qui est nécessaire sur un plan commercial comme technologique et autant que militaire malheureusement aujourd'hui, que cette relation transatlantique se ressoude de manière solide, aussi au niveau de l'OTAN, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est aussi une leçon qu'il faut que nous gardions à l'esprit que sous Obama, à l'époque où Joe Biden était vice-président, nous nous plaignions, nous les Européens, de cette négligence des États-Unis à notre encontre et de ce pivot vers l'Asie. Le pivot vers l'Asie, il est là, il est définitif, il est bipartisan aux États-Unis aujourd'hui, et c'est non seulement un pivot vers l'Asie, mais vers l'Indo-Pacifique dans son ensemble, où nous sommes aussi, mais il est certain que cette donne-là ne changera pas.
J'entends que ça changera pas, Annick Cizel, mais est-ce que quand même on pourrait pas s'écarter un peu de cette négligence que vous évoquiez ? Parce qu'il y a un élément de politique intérieure qu'il faut rappeler aux États-Unis, mais qui est très importante, qui est que on risque d'avoir un Biden qui va devoir composer a priori avec un Sénat où les démocrates ne seront pas majoritaires. Alors je sais bien que tout n'est pas joué, qu'il faut attendre tous les résultats, notamment du côté de l'État de Géorgie, mais qui est historiquement conservateur. Mais si c'était le cas, qu'il était en situation de cohabitation politique, ça voudrait dire qu'il pourrait chercher à concentrer son action sur la scène internationale et, au fond, avoir un activisme diplomatique qui pourrait rompre avec le repli trumpien. Il faut s'attendre peut-être, enfin en tout cas on peut l'espérer, à ce que Biden s'occupe bien davantage des affaires du monde, compte tenu de la situation intérieure aussi.
Dans l'absolu, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il est mathématiquement très probable que le Sénat aura au moins 51 sièges, si ça n'est pas 52, du côté républicain à l'issue des élections, des nouvelles élections législatives en Géorgie, dans l'État de Géorgie aux États-Unis, le 5 janvier prochain. Il n'empêche que, si bien sûr l'administration Biden-Harris va être très multilatéraliste, va être très transatlantique. Le pivot géographique des priorités stratégiques américaines reste vers la Chine en premier, la Russie en deuxième. Et cet ordonnancement du monde aujourd'hui, qui a la validation bipartisane et non partisane d'ailleurs du Pentagone, en l'occurrence, restera au-delà du changement d'administration. Ceci étant, les relations transatlantiques s'étendent aujourd'hui aussi, je pense aux opérations maritimes, aux exercices militaires maritimes qui ont lieu dans le Pacifique aujourd'hui, elles ont lieu avec la France et avec le Royaume-Uni. Et avec l'Allemagne et les Pays-Bas en soutien logistique. Donc les relations transatlantiques aujourd'hui sont globales. Le globalisme est au cœur de la politique à venir des États-Unis sous Joe Biden. La difficulté étant peut-être, en tout cas pour certaines puissances européennes, et je pense à la France notamment, d'une définition essentielle de la politique étrangère, est-elle euro-atlantique, est-elle globale ? Et on revient à cette question fondamentale de la souveraineté, de l'autonomie stratégique, et pour rebondir sur ce que disait Nicole Niesoto, de cette autonomie stratégique qui ne peut pas, qui ne doit pas redevenir de manière nostalgique, une dépendance sur les États-Unis aujourd'hui, parce que l'agenda va être globaliste sous Biden et va donc nous entraîner dans un élargissement de nos préoccupations simplement euro-méditerranéennes, moyenne-orientales, mais va aussi nous entraîner vers Tahiti de l'autre côté, vers l'Indo-Pacifique à sa suite.
Alors, Nicole Niesoto, justement, revenons du côté de l'Union européenne et penchons-nous sur ce rapport de force entre les deux camps, c'est-à-dire ceux qui veulent qu'on aille vers l'autonomie stratégique et ceux qui veulent qu'on revienne vers justement ce lien très fort avec les États-Unis. Ici en France, Emmanuel Macron s'est fait le héros de la souveraineté européenne, alors que du côté allemand, on est beaucoup plus sensible et depuis très longtemps à cette coopération stratégique avec Washington qui est quasiment dans l'ADN finalement de l'Allemagne.
Absolument.
Mais si on regarde justement les choses, parce que vous avez probablement lu comme moi cette tribune de la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, publiée sur le site Politico Europe, dans laquelle elle explique, je la cite, que les illusions d'autonomie stratégique européenne doivent prendre fin, les Européens ne pourront pas remplacer le rôle crucial de l'Amérique en tant que fournisseur de sécurité, dit-elle, mais jusqu'où cette position est vraiment majoritaire en Allemagne et est-ce que ce statu quo ne pourrait pas voler en éclats? Parce qu'il n'y a pas que ces voix-là, il y en a d'autres qui disent bien, qui disent des choses bien différentes, et notamment du côté des Verts, mais pas seulement.
Je crois que le discours de Annegret Kramp, la ministre de la Défense, encore une fois, il est attendu. Et à l'inverse, en France, on a eu le discours de Jean-Yves Le Drian qui disait « on ne reviendra pas au bon vieux temps de la relation transatlantique ». Donc si on veut parler de discorde, voire de divorce franco-allemand, on a là deux discours qui permettent de nourrir l'argument. En même temps, encore une fois, vous l'avez dit, les Allemands ont toujours eu comme politique de refuser de choisir entre l'allégeance atlantique et la construction européenne. C'est la ligne directrice de toute la politique allemande, ne jamais être mis en position de choisir. La seule exception a été 2003, l'invasion américaine de l'Irak, où les Allemands ont véritablement choisi l'option française qu'ils appelaient l'option européenne. Mais sinon, c'est une constance de la politique allemande. Donc, je ne crois pas que la déclaration de la ministre de la Défense allemande ferme le dossier de la défense européenne. Je n'y crois pas du tout pour plein de raisons. D'abord, parce que les États-Unis, même s'ils deviennent un plus multilatéraliste, ne vont pas être les gendarmes du monde. En particulier, ils vont pas s'occuper de l'Ukraine, ils vont pas s'occuper du Nagorno-Karabakh. Je doute d'ailleurs qu'ils s'occupent du Sahel. Donc ça, ce sont des points durs d'insécurité que les Européens devront bien gérer, premièrement.
Oui, sur le Haut-Karabakh, Nicole Niesoto, pardonnez-moi, mais il se trouve que le cessez-le-feu qu'on vient de voir il y a quelques jours montre précisément l'inverse, puisque ce qu'on voit, c'est que c'est la Russie qui...
C'est la Russie, oui, mais bon...
C'est mise là-dedans, c'est pas les Européens.
On peut... Non, mais rien n'exclut de penser que sur certains dossiers, on peut avoir une coopération avec la Russie pour éteindre les feux qui couvent à notre porte. Donc, ça c'est la première chose. Le dossier de la défense européenne ne pourra pas être enterré en dépit des protestations de foi atlantiste de la ministre de la Défense allemande, qui encore une fois fait son métier par cette déclaration. La deuxième raison, non seulement les États-Unis ne voudront pas être les gendarmes du monde, mais En plus, je crois que le nouvel internationalisme, le nouvel interventionnisme des Américains sous Biden est à regarder avec beaucoup de suspicion. Moi, j'ai un tout petit désaccord à ce niveau-là. Je crois, et je me réfère à un article d'ailleurs que Biden avait fait paraître, ou du moins un des conseillers de Biden a fait paraître dans Foreign Affairs cet été, qui disait que la puissance extérieure des États-Unis dépend de sa force intérieure. Et donc, je crois qu'il va y avoir toute une première période, même si, bien sûr, Biden va revenir dans la COP21, va reprendre des relations avec l'Europe sur l'Iran, etc. Mais il y aura toute une période où l'objectif premier du président américain sera de reconstruire un consensus intérieur, une prospérité, la fin du chômage, la fin du Covid. Et donc, je ne crois pas du tout qu'ils sont prêts à repartir comme avant, que ce soit pour régler les questions de sécurité en Asie ou au Moyen-Orient. Donc, les Européens ont un fardeau. Ils doivent s'occuper de ce fardeau. Alors, ça passera pas forcément par la création d'une armée européenne, mais ça passera forcément par une réflexion stratégique européenne, par des idées diplomatiques, par des prises de responsabilité, en particulier autour de l'Europe.
Alors, Annick Cizel, Nicole Nisotto nous dit les États-Unis ne vont pas redevenir le gendarme du monde. Regardons les choses, et en particulier au niveau de l'OTAN. On a vu combien Trump a critiqué l'organisation transatlantique, il disait onéreuse, désuète. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'avec Joe Biden, on assiste au grand retour de l'OTAN? Si l'on se souvient un peu des choses, sous Obama, lorsque Biden était vice-président, on avait vu notamment un renforcement du flanc oriental de l'OTAN. Est-ce que vous pensez que là, on pourrait à nouveau assister à une montée en puissance de cette présence de l'OTAN, et en particulier dans cet espace-là? Ou est-ce que, au contraire, vous abondez dans le sens de Nicole Nisotto et vous dites non, il n'y a rien à attendre là-dedans. Effectivement, c'est fini, les États-Unis, les gendarmes du monde.
Je suis d'accord avec les deux, en fait. Parce que je pense que c'est réconciliable dans l'esprit des Américains et surtout du successeur de Barack Obama. Parce que Joe Biden va être confronté, en arrivant à la Maison-Blanche, à la même situation que Barack Obama, en pire. C'est-à-dire une crise économique sans précédent, avec des retombées globales, financières notamment, qui pourraient être totalement explosives pour le système capitaliste, avec une transition énergétique verte qui a le potentiel de créer des emplois, et il est clair que l'aile gauche du Parti démocrate va pousser un maximum pour que Biden soit européen sur cette politique-là, c'est-à-dire qu'il nous fasse un Green Deal, véritablement. Et la crise du Covid en règle générale et son retour, le retour de Joe Biden vers le multilatéralisme, le retour des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé avec un financement accru et une politique de prévention, nous dit-il, avec un vaccin partagé, tout ceci va ressouder, à la fois pour des raisons intérieures et transatlantiques, va ressouder la relation transatlantique. Dans le même temps, il appelle de ses voeux un renouveau, et le discours était presque bouchien, mais sauf que le contexte a tellement changé, un retour des démocraties occidentales sur le devant de la scène internationale. Et ça veut dire quoi, le retour, non pas l'alliance des démocraties de George Bush et des néoconservateurs, mais le retour de la démocratie, démocratie occidentale sur la scène internationale. Dans un contexte à la fois intérieur du trumpisme et extérieur de la montée en puissance de démocratie illibérale au sein de l'Union européenne et de régimes autoritaires un petit peu partout sur cette planète, c'est un intérêt commun qui est à la fois un intérêt de sécurité nationale pour les États-Unis de reconstruire leur démocratie effectivement au lendemain de ces élections, mais c'est également un ordre du jour très transatlantique, très européen, qui va, je pense, se translater également au niveau de l'OTAN. Si on prend les déclarations de Joe Biden pour l'instant, il nous annonce même une possible continuation de l'élargissement de l'OTAN. Il y a eu une ligne de continuité qui est passée par le département de la défense. Pourquoi est-ce que Donald Trump est toujours furieux envers ses ministres de la défense? Que ce soit Jim Mattis, qui l'a poussé à la démission à la veille de Noël 2018, ou Mark Esper, qui vient de prendre la porte à la minute, deux jours après que Joe Biden ait annoncé souhaiter faire sa transition avec Mark Esper. Et la ligne de continuité du Pentagone aux États-Unis, également d'ailleurs de l'état-major des forces armées. Je vous renvoie aux dernières déclarations de Mark Milley, le général qui est à la tête de l'état-major américain, qui ne sont pas exactement en faveur de l'individu, comme il le dit, qui est à la Maison-Blanche actuellement. Cette continuité de la ligne de défense très otanienne, paradoxalement sous Trump, nous nous attachons, et c'est tout à fait logique, aux déclarations présidentielles. Mmh. Mais pendant l'intégralité des 4 années de l'administration Trump, le ministère de la Défense a poursuivi un élargissement de l'OTAN qui s'était amorcé sous Obama. Le Monténégro est entré dans l'OTAN, mmh. la Macédoine du Nord. L'OTAN a mené des exercices euro-atlantiques militaires sans précédent à la frontière russe ces 2 dernières années. Et bien évidemment, Joe Biden va poursuivre cette montée en puissance de l'OTAN avec peut-être, j'y reviens, je suis désolée, j'ai toujours l'Asie en tête et j'ai toujours les partenaires globaux de l'OTAN en tête, notamment le Japon et l'Australie, avec peut-être une divergence de vue, pas avec tous les alliés européens, mais en tout cas avec la France, sur ce que doit être l'OTAN, c'est-à-dire prioritairement une organisation de défense de l'Europe à sa frontière russe, ou prioritairement, telle que les États-Unis la conçoivent au XXIe siècle, c'est-à-dire une organisation globale, avec la répétition, si je peux le dire comme ça, de la guerre en Afghanistan, de la coalition en Afghanistan, qui était une coalition globale, et des partenariats transatlantiques, transpacifiques, globaux, qui s'expriment aujourd'hui à Washington et qui seront mmh. l'usage de l'administration Biden, à n'en pas douter.
Nicole Niesoto, alors est-ce évidemment, je vais vous laisser réagir, mais on pense tout de suite à l'effet que tout cela pourrait avoir sur les Européens, parce que il y a effectivement, Annick Cizel nous le dit, ce que dit Trump, et puis il y a aussi ce qu'on pense derrière, et notamment cette grande continuité, nous dit-elle, du côté du Pentagone, et il faut attendre, dit-elle, de Joe Biden, non seulement un renforcement de l'OTAN, mais peut-être même un élargissement. On imagine, Nicole Niesoto, ce que ça peut avoir comme effet du côté des Européens, et en particulier de l'Europe centrale, qui est traditionnellement très attachée à cette alliance transatlantique. La Hongrie, la Pologne, etc., etc. Évidemment, la proximité avec la Russie explique cet attachement. Mais du coup, on se dit que ceux-là ne vont pas être très enclins à prendre le chemin de l'autonomie stratégique.
Alors, moi, je ne crois pas au renforcement de l'OTAN autrement que dans la rhétorique diplomatique euro-américaine. Pour 3 raisons, je n'y crois pas. Premièrement, parce que l'OTAN aujourd'hui est une organisation totalement divisée, et je dirais même politiquement divisée. La Turquie, qui est censée être notre principal allié sur le flanc sud, la Turquie est devenue pratiquement une dictature. En tout cas, c'est un régime autoritaire. Et si Monsieur Biden veut mettre les droits de l'homme et la démocratie au premier rang des relations internationales, il va falloir d'abord qu'il se débarrasse d'Erdogan, ce qui n'est quand même pas une chose facile. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est pareil avec la Pologne, la Hongrie et l'ensemble des pays d'Europe centrale et orientale, qui sont devenus des pays qui remettent en cause l'état de droit, qui sont des pays non démocratiques. Assez paradoxalement d'ailleurs, ce sont des pays qui sont non démocratiques et qui en même temps ont une fascination pour l'autoritarisme de Poutine. Il y a une poutinisation intérieure de ces régimes et en même temps une adhésion très forte à l'Alliance Atlantique, encore une fois pour de simples raisons d'économie militaire. Et donc, troisième raison, je crois, pour lequel il n'y aura pas une montée en puissance de l'OTAN, parce qu'un certain nombre de pays, dont la France, mais également l'Allemagne, ne sont pas favorables à un nouvel élargissement de l'OTAN. Je rappelle que quand il s'était agi de mettre dans le communiqué final de l'OTAN une ouverture vis-à-vis de la Géorgie notamment, c'est la France et l'Allemagne qui avaient mis un veto à ce que ces deux pays soient cités avec une date précise. Donc l'élargissement de l'OTAN, à mon avis, n'est pas la source d'un consensus euro-américain. Bien sûr, la France sera contre, mais pas seulement la France, et je crois que l'Allemagne également. Si je puis me permettre d'ajouter, je crois qu'il y a beaucoup d'illusions sur ce que peut faire Joe Biden. C'est un homme sage, c'est un homme qui a passé 47 ans à Washington, qui connaît bien les Européens, donc il n'y a aucun problème, on pourra s'entendre avec lui. Mais il y a quand même une immense marge entre l'intention et la réalité. Je rappelle qu'Obama, quand il a pris le pouvoir, il voulait supprimer Guantanamo, il n'a jamais pu, faire un reset avec la Russie, il n'a jamais pu. On est allé au moins, au contraire, à une confrontation. Il avait prononcé le discours du Caire, qui était extraordinaire, qui parlait de nouveaux partenariats avec le monde musulman. Il n'a jamais pu. Et donc, il y a tout un monde entre l'intention et la réalité quand on prend le pouvoir. Et juste quelques exemples. Joe Biden ne va pas pouvoir remettre en cause le déplacement de la capitale de son ambassade à Jérusalem. Il ne va pas pouvoir remettre en cause les accords qui ont été signés entre les États-Unis, Israël, les États arabes unis et peut-être bientôt l'Arabie saoudite. Il va sans doute rejoindre la COP21 sur le climat, mais quand même depuis 4 ans, des milliers d'emplois, voire des dizaines de milliers d'emplois ont été créés aux États-Unis par le gaz de schiste et l'augmentation des industries pétrolières sous Trump. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même pas pouvoir mettre tous ces gens à la porte, etc., etc. Donc je crois quand même que au-delà de la personne et de la personnalité de Joe Biden, qui effectivement est un Européen par sa culture, par sa politesse, par sa vision du monde, il y a des contraintes lourdes qui, moi, me fassent douter que la politique de Joe Biden sera, entre guillemets, plus favorable aux Européens que celle de Trump.
Il y a un sujet, Annick Cizel, un sujet que n'a pas évoqué Nicole Niesoto, c'est la question de la guerre commerciale, et qui est un vrai différent profond avec les États-Unis et l'Europe. On a vu comment Trump a lancé cette guerre contre l'Europe aussi, son allié, considérant que l'excédent de sa balance commerciale avec les États-Unis était un scandale et que les Européens profitaient de la situation. À quoi faut-il s'attendre avec Biden? Est-ce que, en réalité, cette guerre commerciale va se poursuivre, même si elle sera plus feutrée, ou est-ce qu'on va trouver des accords, et peut-être même d'ailleurs un véritable accord commercial, qu'on est toujours d'ailleurs en train de négocier? Annick Cizel.
Alors, je vais répondre à votre question, Florian, mais il y a deux points sur lesquels je souhaiterais revenir. Le premier est sur l'élargissement. Quand Joe Biden parle de l'élargissement de l'OTAN, il n'a pas dit l'élargissement en Europe. En aucune manière. Et je ne pense évidemment pas que ni la Géorgie, l'Ukraine ou la Finlande sont dans les arrière-pensées de Joe Biden aujourd'hui. Même pas forcément la Suède. Par contre, l'élargissement de l'OTAN est un vieux cheval de bataille de certaines administrations américaines, élargissement hors zone de l'OTAN. De la même manière que l'OTAN s'est retrouvée en Irak après la fin de la guerre de George W. Bush en Irak en 2011 pour entraîner les troupes irakiennes. C'est ça l'élargissement de l'OTAN. Il faut regarder du côté de la liste des partenaires globaux de l'OTAN.
Mais alors, qui est candidat là?
L'Australie. Il n'y aura personne.
L'Australie?
Il n'y aura personne. C'est hors traité. C'est impossible. Le traité de l'OTAN dit que c'est la défense de la zone de l'Atlantique Nord avec la meilleure volonté du monde. Même sans idéologie, on peut pas dire que l'Australie est dans la zone de l'Atlantique Nord. Et tous les Européens seront contre parce que ce sera miner la primauté, la priorité de l'Europe dans la stratégie américaine. Donc moi, je n'y crois pas une seconde.
Annick Cizel.
L'OTAN s'est battue en Libye, l'OTAN a
mis en place sans s'élargir
en Irak et c'était hors zone. Le deuxième point est sur Jérusalem et la normalisation des relations avec Israël. Il est prévu dans la loi aux États-Unis, d'une loi du Congrès qui était bipartisane en 1995, il est prévu depuis 1995 que Jérusalem devienne soit reconnue par les États-Unis, capitale d'Israël, avec une clause d'exemption, c'était prévu avant 1999, avant le nouveau millénaire, avec une clause d'exemption qui a été évoquée tous les 6 mois par l'intégralité des présidents américains avant Donald Trump, qui a fait que ce déménagement de Tel Aviv à Jérusalem n'a jamais eu lieu. Pour autant, Joe Biden a été l'une de ses premières déclarations à l'attention de son électorat, de l'électorat israélo-américain, pendant la campagne, l'ambassade des États-Unis restera à Jérusalem conformément aux accords bipartisans du Congrès sous Bill Clinton. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donald Trump a fait ce que tous les présidents américains discutaient et ne faisaient pas pendant son mandat. Quant à la normalisation des Émirats arabes unis, du Soudan ou de Bahreïn avec Israël, les premiers pourparlers ont eu lieu sous Barack Obama, bien évidemment de manière bipartisane aux États-Unis aujourd'hui. Tout le monde se réjouit de ces avancées. Et là aussi, l'équipe Biden-Harris a été très très claire qu'il poursuivrait les négociations de manière à obtenir d'autres normalisations. Ça va être compliqué vis-à-vis de l'Arabie saoudite parce que là, par contre, il y a une distanciation qui est en train de se mettre en place, notamment sur la guerre au Yémen. Au niveau de la guerre commerciale, il est évident que le nationalisme économique, et je ne vais pas dire le protectionnisme, mais qu'une forme de nationalisme économique est toujours présente. Elle l'était sous Obama, elle le restera sous Joe Biden. Si vous regardez les pupitres de Joe Biden pendant l'intégralité de la campagne de 2020, il y avait un slogan qui disait « Buy American », acheter américain. On oublie trop souvent dans l'idéalisation nostalgique de Barack Obama que le plan de reconversion et de relance de l'économie américaine après la crise financière de plus ou moins 2008, que le premier plan, la première décision de Barack Obama à l'époque est de signer, il a le Congrès en sa faveur, de signer une loi obligeant les marchés publics américains à se tourner vers des produits américains, notamment pour la modernisation des infrastructures aux États-Unis, de manière à relancer l'économie par ce qu'on pourrait appeler une souveraineté stratégique, effectivement, une quête d'autonomie énergétique également qui était au cœur de la politique de relance économique de Barack Obama, et Joe Biden va faire exactement la même chose. Le ton va changer. Le ton vis-à-vis des alliés européens va changer. On peut espérer que les taxes douanières sur l'aluminium et l'acier ne soient plus aussi hautes qu'elles le sont aujourd'hui. Mais est-ce que la rivalité entre Boeing et Airbus va pour autant... Alors, c'est un mauvais exemple aujourd'hui parce que la Covid a également énormément changé l'espace aérien. Mmh. Mais est-ce que ces tensions commerciales vont totalement disparaître ?
Clairement pas.
Clairement pas, d'autant moins qu'il n'est plus question d'un traité de libre-échange, investissement transatlantique aujourd'hui. Le CETA avec le Canada a rencontré tellement d'opposition au niveau des opinions publiques européennes. La donne économique globale a tellement changé du fait de la pandémie que je ne m'attends pas à une guerre commerciale. Mais pour autant, l'Union européenne le répète, nous ne sommes plus naïfs aujourd'hui vis-à-vis des États-Unis, et je pense qu'il va être essentiel de ne pas perdre cet adage dans l'euphorie de l'élection de Joe Biden et Kamala Harris.
Nicole Niesoto, sur cette guerre commerciale, comment vous semble-t-il que l'Europe doit réagir face à une situation en réalité de continuité, même si dans la forme les choses vont changer, mais la guerre commerciale, elle, va en réalité rester d'actualité.
Oui, là je suis d'accord avec Annick Cizel. Il y a toujours les États-Unis et l'Europe ont toujours été des alliés sur le plan stratégique et des concurrents sur le plan économique et commercial. Donc, je ne sais pas s'il faut parler de guerre commerciale avec Biden, mais en tout cas, c'est certain qu'il y aura des concurrences, des tensions, des rivalités, et que malgré tout, même si Joe Biden est un libéral à tous les sens du terme, sens politique et au sens économique, je crois quand même qu'il ne faut pas minorer le fait que aux États-Unis, beaucoup considèrent que Trump, sur un certain nombre de points, avait raison, et en particulier sur son analyse de la mondialisation, qui est une force extraordinaire dont le bénéficiaire essentiel est la Chine et non pas les États-Unis. Ça, c'était l'analyse de base de Donald Trump. La mondialisation ne profite plus à l'Amérique, elle profite aux Chinois, donc je fais la guerre commerciale aux Chinois, et après, il l'avait dit, je ferai la guerre commerciale aux Européens.
Mais alors, comment justement, Nicole Niesoto, se doit se positionner l'Europe dans ce contexte-là ? Parce que on voit bien, on va vers un monde qui, au fond, va se bipolariser avec d'un côté les États-Unis et de l'autre la Chine. Est-ce qu'il faut affirmer ce lien très fort avec les États-Unis, même malgré la guerre commerciale, mais au nom de valeurs communes, de liberté et de démocratie ? Ou est-ce qu'il faut organiser aussi un lien suffisamment solide avec Pékin, sans quoi nous paierons les conséquences économiques au prix fort ?
Moi, je ne crois pas du tout que la création d'un nouvel ordre bipolaire entre l'Ouest et le reste, entre les Occidentaux et la Chine, soit dans l'intérêt des Européens. Et moi, ce qui me navre, c'est que au-delà des applaudissements sur l'élection de Joe Biden, il n'y ait pas eu une réunion du Conseil européen, ou en tout cas un groupe de travail pour essayer de proposer aux États-Unis une nouvelle forme de proposer une nouvelle forme de structuration du système international, que les Européens sont là en train d'attendre ce que va dire Biden, ce que veut Biden, etc., au lieu d'encore une fois d'être proactifs et de leur dire la séparation bipolaire du monde entre l'Occident et la Chine n'est pas l'intérêt de l'Europe. L'Europe, son intérêt, c'est d'être le troisième terme entre les États-Unis et l'Europe du côté occidental, bien sûr, mais qui sont quand même deux identités séparées, et effectivement la Chine, pas forcément dans une relation d'ailleurs toujours conflictuelle, on peut avoir des intérêts communs avec les Chinois, par exemple sur le réchauffement climatique, on en a eu sur ces 4 dernières années. Mais cette idée qu'il n'y a pas d'alternative entre soit on est du côté des Américains, soit on est du côté de l'ennemi chinois, ça c'est une idée que les Européens doivent absolument détruire parce qu'elle est contraire à leur intérêt. Il y a énormément de sujets dans le monde, y compris le commerce, y compris le numérique, par exemple, où notre intérêt n'est pas le suivi absolu des États-Unis.
Sauf que pour le moment, et vous le dites, l'Union européenne est particulièrement passive, sur ce sujet. Est-ce que justement, Annick Cizelle, on n'a pas de l'autre côté, en revanche, une administration qui pourrait devenir extrêmement active sur ce sujet? Joe Biden a évoqué dans un article de Foreign Affairs au début de l'année, je ne sais plus qui l'a évoqué tout à l'heure, mais son intention d'organiser un sommet des démocraties. C'est quoi l'idée, Annick Cizelle? C'est de construire une nouvelle arène destinée à faire revivre ce multilatéralisme largement en crise, en tout cas on le voit du côté de l'arène onusienne, ou est-ce que c'est pas justement de créer un nouveau front qui va permettre de mieux contrer la puissance chinoise, et donc là il s'agirait finalement de se mettre les Européens dans la poche pour qu'ils viennent du côté américain dans cette confrontation? Annick Cizelle.
Alors merci d'avoir suggéré deux réponses que je m'apprêtais à vous proposer. Oui, bien sûr, c'est le multilatéralisme, et bien sûr, c'est l'idée d'un front commun avec la Chine. C'est aussi, je crois, une adaptation au XXIe siècle, et pas simplement une résurgence de guerre froide, vers un souhait, vers une projection d'un monde bipolaire. Je ne pense pas que l'administration Biden souhaite la cristallisation d'une nouvelle guerre froide, pas plus que nous, comme le disait très bien Nicole Niesoto. Le combat pour l'administration Biden aujourd'hui, une nouvelle fois, il est à l'intérieur et à l'extérieur. Les deux sont indissociables. Le combat, c'est 2024. Le combat, c'est dans 4 ans, et je suis désolée, alors qu'il n'est même pas encore entré à la Maison-Blanche, de faire une projection vers les élections américaines présidentielles de 2024, mais le combat, c'est le trumpisme. C'est, même si Donald Trump finit par quitter la Maison-Blanche, le trumpisme va lui survivre. La montée en puissance de démocratie dite illibérale est un fait, est une réalité d'aujourd'hui. Le côté décomplexé de régimes autoritaires comme la Turquie, qui était évoqué tout à l'heure, la montée en puissance diplomatique, pas simplement militaire, pas simplement à la marge de la communauté internationale, mais la montée en puissance diplomatique de la Russie, de la Turquie, également de l'Iran, je pense au processus d'Astana en Syrie, fait que ressouder une forme de, alors on va pas l'appeler le monde libre, ça serait anachronique, mais ressouder les démocraties occidentales auxquelles, là encore, il faut regarder le monde. J'envoie toujours mes étudiants regarder les cartes de la CIA, parce qu'il faut regarder le monde tel qu'on le regarde à Washington, et on est très mauvais en géographie. Le monde occidental passe par le Japon et par l'Australie. Il n'est pas nécessairement au bord de l'océan Atlantique. Et c'est ressouder ces démocraties, ces valeurs universelles qui ont fait défaut pendant 4 ans sous Donald Trump, le droit international, les normes qui sont si chères à l'Europe. C'est ça le projet de sommet des démocraties de Joe Biden.
Merci beaucoup Annick Cizelle, Nicole Niesoto, nous avoir éclairé sur ces sujets absolument passionnants. Vous entendez le générique de fin, c'est le signe que nous en avons fini. Malheureusement, il y avait encore bien des choses à évoquer, mais en tout cas, un grand merci l'une et l'autre de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle qu'évidemment, l'ensemble de vos livres, références, articles à retrouver sur la page de Culture Monde, sur le site de France Culture. Dans un très court instant, c'est Lucille Comeau et la critique, comme tous les vendredis.